nous ne voulons pas procéder par message, par déclaration, mais en dialoguant, pour essayer de comprendre les enjeux. Les enjeux, c'est notamment, est-ce que des décisions de bioéthique ne dessinent pas une certaine société pour l'avenir? Et est-ce que c'est vraiment vers cette société-là que nous voulons aller? Et il nous semble que ce dialogue avec les scientifiques oblige peut-être les scientifiques à parler en toute clarté, et nous, de mieux comprendre le besoin de la recherche. Comme évêque, nous voulons encourager la recherche. Mais c'est la distinction entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée. La recherche appliquée doit toujours être avec une finalité thérapeutique, et nous pouvons discuter de cela avec les scientifiques. Quant à la recherche fondamentale, elle ne peut jamais se faire sans que soit respecté l'être humain en toutes circonstances. Et il me semble que ce dialogue est très important, où nous nous enrichissons mutuellement.
Quel dialogue y a-t-il justement avec les scientifiques? Quels sont les échanges que vous pouvez avoir?
Dans les diocèses où il y a des CHU, dans les diocèses où il y a par exemple des chercheurs, des centres de recherche, l'évêque peut engager des dialogues avec certains scientifiques, certains médecins. Par exemple, l'archevêque de Marseille a pu dialoguer et voir deux médecins qui ont mis en œuvre la congélation d'ovocytes en refusant la congélation d'embryons. Cette mise en œuvre scientifique a été guidée par un repère éthique. Et c'est ce dialogue qui permet à des scientifiques, à des médecins et aussi à des juristes de percevoir les enjeux éthiques non pas comme des barrières, comme des limites, comme des empêcheurs de tourner en rond, mais les repères éthiques qui sont comme des guides pour avancer.
Donc, dialogue, échange mutuel, quelle est la parole des scientifiques? En quoi peut-elle vous enrichir, vous, évêque?
C'est que nous puissions recevoir en toute clarté la vérité des découvertes scientifiques. Et il me semble très important aujourd'hui, dans le dialogue avec les scientifiques, d'avoir un état des lieux clair, précis, sur là où en est la science. Exactement. Par exemple, on nous a promis pendant très longtemps que les recherches sur les cellules souches embryonnaires auraient des résultats thérapeutiques considérables. Aujourd'hui, les scientifiques disent publiquement « on attend toujours ». Et par exemple, faire le point sur les cellules souches adultes qui peut-être nous éclairer pour voir effectivement les thérapies qui aujourd'hui deviennent possibles grâce aux cellules souches adultes. Par exemple, les cellules du sang de cordon.
Au sein même de l'Église, est-ce qu'il y a débat autour de cette question de bioéthique?
Oui, il y a un débat sur les enjeux pour mieux les cerner et mieux les comprendre, où certains accentuent certains aspects. Par exemple, l'enjeu de la recherche est capital, et donc il faut faire attention de ne pas brider la recherche. Et d'autres, au contraire, pensent qu'il faut absolument pointer ce qui est inacceptable au regard du respect de l'être humain. Et donc on voit bien que là, il y a une discussion sur les enjeux. Et il y a une deuxième discussion, c'est sur la manière de conduire le dialogue. Est-ce que nous conduisons le dialogue uniquement en termes de raison humaine, ou bien est-ce que nous évoquons le regard particulier de l'Église qui, comme l'ont dit Jean-Paul II et Benoît XVI, est un regard contemplatif. Ce regard contemplatif est un regard éclairé par la foi, éclairé par l'expérience, éclairé par l'amour de tous ceux et toutes celles qui sont proches des malades, des souffrants. C'est l'amour qui donne le vrai regard. Je dirais que la foi nous oblige à considérer la personne humaine avec le même amour que Dieu a pour chacune, et cet amour pour la personne humaine oblige la raison à travailler.
Une dernière question. Lorsque vous avez préparé donc, ce groupe de réflexion concernant la bioéthique, est-ce qu'il y a un point en particulier qui était difficile ?
Deux points qui ont été difficiles. Le principe d'indisponibilité du corps humain. Ce principe n'est jamais inscrit dans le droit français, mais il sous-tend des décisions juridiques et des lois françaises. Et comment comprendre ce principe d'indisponibilité du corps humain? Cela nous appelle à comprendre quel est le rapport entre la personne et son corps. Nous pouvons donner des organes, des tissus, l'homme peut donner aussi ses gamètes. Comment le principe d'indisponibilité du corps humain est mis en œuvre? Ça, c'est une question très difficile. Le principe d'indisponibilité du corps humain s'oppose aux mères porteuses. Et puis, un deuxième point qui était très difficile, c'est par rapport aux tests génétiques. Comment les tests génétiques conduisent-ils à une authentique médecine prédictive, à une médecine qui permet de prédire de façon thérapeutique et non pas pour aller vers l'eugénisme, et non pas pour mettre des personnes dans des situations d'angoisse existentielle impossibles à supporter. Donc comment des tests génétiques, et donc comment les évaluer, comment les pratiquer, comment informer les personnes potentiellement malades, comment ces tests conduisent-ils à une véritable médecine, c'est-à-dire une thérapie des personnes pour qu'elles aillent mieux, alors même que leur maladie sera pour plus tard, ou sera peut-être pour leurs descendants. Ça, c'est une question très difficile.
Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose ?
Je sais que le pape Benoît XVI a demandé à la Congrégation pour la doctrine de la foi d'étudier les questions de bioéthique en faisant le bilan de 20 ans de l'instruction Donum Vitae. Et je suis heureux que le pape a demandé cela à la Congrégation pour la doctrine de la foi, car je crois qu'il sera très utile que la Congrégation puisse nous aider dans le discernement sur certaines avancées scientifiques et techniques. Et je remercie vivement le pape Benoît XVI d'avoir engagé ce travail auprès de la Congrégation pour la doctrine de la foi.